Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Merci encore à l'équipe de louange, c'était vraiment magnifique. Tout ce groupe là qui s'est préparé pour rentrer comme ça dans la présence de Dieu. Alors c'est vrai, David, il a commencé la semaine passée à Rossé à parler sur la prière les uns pour les autres. Et puis il a commencé avec la prière de guérison et il a regardé aussi dans l'Ancien Testament comment ça se passait. Puis moi je vais aller un peu plus dans le Nouveau Testament avec Jésus. Comment Jésus, il a guéri les malades. C'est vrai qu'il a fait de nombreux miracles, pas seulement guérir les malades, il a aussi chassé des démons, il a ressuscité des morts, il a multiplié la nourriture, il a fait plein de choses. Mais finalement, il y en a peut-être, je crois, une cinquantaine, il semble, d'exemples de guérison. Mais plein de fois, c'est marqué, il a guéri tous les malades ce jour-là, là où il était. Donc on peut imaginer qu'il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, quelques-uns, il nous a retranscrit les évangiles, les disciples, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a des exemples, parfois d'ailleurs c'est les mêmes, mais avec une autre perspective, un autre point de vue, avec des détails un peu différents. Et quand est-ce qu'il a commencé de prier pour les malades? Merci. En fait, il a commencé au début de son ministère, quand il avait 30 ans. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est passé avant même qu'il commence. C'était le jour du sabbat. Jésus, il était comme régulièrement, comme chaque semaine, il allait à la synagogue. Et il était assis là, et tout d'un coup, il s'est levé. Et la personne qui présidait, elle lui a remis un rouleau, parce que c'était des rouleaux, la Torah. Il lui a donné le livre d'Ésaïe. Il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a lu un certain passage. Il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Pour l'instant, il ne fait que de lire. Puis après, tout simplement, il va se rasseoir. Puis là, il y a tout le monde qui le regarde. Et c'est là que tout d'un coup, toute cette parole qu'il vient de citer prend une autre réalité parce qu'il dit « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Donc tout d'un coup, ce passage qu'il connaissait très bien dans cette synagogue, qu'ils avaient lu très certainement des nombreuses fois, tout d'un coup, Jésus, lui, il ose proclamer que cette parole, elle s'accomplit aujourd'hui et que quelque part, si on la relit, Jésus, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a consacré pour... » Et il exprime finalement tout son ministère, vu que c'est Isaïe, c'était déjà plus de 400 ans avant que son père, il lui avait donné, qu'il savait que ce serait ça aussi qu'il serait appelé à faire. Et voilà, on voit toutes les choses qu'il était appelé à faire, dont aussi la guérison des aveugles, mais de manière générale, la guérison pour les malades. Donc tout au début de son ministère, quelque part, il fait une proclamation. Il le fait dans son village, à Nazareth. Alors c'est vrai que les gens, ils sont quand même assez étonnés. Ils se disent, mais celui-là, on le connaît. C'est le fils de Joseph là, et de Marie. Mais qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui là, de dire que tout d'un coup, cette parole-là, elle s'accomplit au travers de lui? Quelle autorité? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Mais c'est Jésus. Et ils vont le découvrir tout d'un coup, sous un nouveau regard, une nouvelle perspective, parce que ce n'est plus le petit Jésus ou l'ado ou le jeune adulte, c'est Jésus qui se lève parce que Dieu l'appelle. Et juste avant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vécu 40 jours dans le désert. L'Esprit Saint l'a appelé après le baptême, son baptême, et puis il est passé 40 jours. Quand il arrive là, dans ce jour du sabbat, dans sa synagogue à Nazareth, en fait, il vient de passer par un temps de combat spirituel. Il a été tenté par le diable et à chaque fois, il a utilisé la parole de Dieu pour dire « Et il est écrit, et il est écrit. » Il a passé un temps de tête à tête avec son père. Et c'est marqué à la fin que justement, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit après ces 40 jours. Alors, évidemment, c'est Dieu, il y avait déjà le Saint-Esprit en lui. Même quand il était dans le ventre de sa maman Marie, c'est marqué qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Donc lui, toute sa vie, il y a le Saint-Esprit avec lui. Quand il a reçu le baptême, il a reçu encore le Saint-Esprit qui était là et qui a acquiescé « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là encore, quelque part, il y a une autre dimension qui nous est montré, qui est un peu comme surligné. Après ces 40 jours, il a vécu quelque chose d'encore plus fort avec le Saint-Esprit. Alors oui, c'est vrai, Jésus, il a tout accompli. Plus tard aussi, comme on le sait à la croix, il a tout accompli pour nous. Il a tout accompli pour qu'on soit sauvés, mais aussi finalement pour qu'il porte aussi nos maladies, pour qu'on puisse être délivrés. Et puis comme on le sait, on est dans ce déjà tout accompli, mais pas encore totalement, parce qu'on attend son retour. Alors on peut voir des prémices, c'est vrai, nous, dans nos vies, on peut voir des fois des guérisons, mais ce n'est pas encore aussi fort et puissant et 100% comme quand Jésus, lui, y guérit. Dans Matthieu, on voit plusieurs guérisons, j'en ai pris surtout deux. Jésus y guérit un lépreux. Imaginez un lépreux. C'est une maladie hyper contagieuse que généralement on ne veut même pas s'approcher. C'est bien pire, j'ai envie de dire, que le Covid. Imaginez, il y a 2 ans, si quelqu'un vous s'approchait de vous, dit « Tu voudrais bien prier pour moi, j'ai le Covid ?» Vous serez d'accord de m'imposer les mains ? Peut-être qu'on aurait dit « Non, peut-être pas, non, on va faire autrement. » Alors Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivirent. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et lui dit « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Des fois c'est traduit « Tu peux me guérir, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha. Il déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre. » Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Donc Jésus dit, il n'est pas contre la loi de Moïse, mais il lui dit, va faire tout ça. Puis il demande la discrétion, parce qu'il aimerait bien ne pas avoir trop de foule, mais là, ce n'est pas marqué ce qu'il a fait. Dans un autre évangile, c'est marqué qu'il a quand même été dire, tellement il était content. Hein, c'est dur de se retenir, de partager la joie de la guérison, surtout un lépreux. Imaginez un lépreux, c'est un homme impur. Il n'a plus de vie sociale, il doit vivre et loin de tout le monde. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire. Il doit être que dans l'aumône et d'en supporter qu'il souffre. Et à moins d'un miracle, il va souffrir toute sa vie. Et Jésus, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il le touche. Il le touche et il lui dit clairement, je le veux, sois purifié de ta lèpre. C'est tellement puissant et en même temps tellement simple. Mais en même temps, je me dis, il n'a pas peur. Bon, c'est Jésus. Hein. Lui, il sait que la puissance qu'il y a en lui, la puissance de vie, quand il touche, il va guérir. Et il le fait, il lui offre simplement, gratuitement. Il honore la foi de cet homme et il est là avec lui. Et en quelques minutes, je me suis dit, combien de temps ça prend de dire, je te touche, je le veux, sois pur. Même pas une minute peut-être. Et sa vie, elle change radicalement. Il passe d'être exclu, loin de tout le monde, malade, souffrant, a rétabli en bonne santé et il a le droit enfin d'aller voir sa famille, d'avoir un câlin, parce que peut-être depuis des années on ne l'a pas touché, et de pouvoir enfin peut-être espérer retravailler et avoir sa place dans la société. Et c'est vrai que Jésus ne lui demande rien, il ne lui dit pas, il ne lui pose pas des questions, mais pourquoi tu es lépreux ? Est-ce que tu aurais péché ? Est-ce que tu as fait ci ? Est-ce que vraiment tu le veux ? Non. Il l'offre gratuitement. Une autre guérison, c'est la belle-mère de Pierre. Jésus se rendit à la maison de Pierre et là, il trouve la belle-mère de Pierre, elle est couchée. Elle avait de la fièvre. Et de nouveau, il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas ? C'est d'une simplicité. Il touche la main et c'est fait. Moi, je rêve. J'espère. J'aimerais tellement. Et pourtant, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est Jésus. Nous, peut-être, on est en apprentissage et on a besoin quand même de prier plusieurs fois. Mais Jésus nous montre l'exemple. Et puis, un peu plus loin dans ce texte, c'est aussi marqué qu'il y a un Romain, un officier romain qui est venu. Enfin, même, il a envoyé des serviteurs vers Jésus. Il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais guérir mon esclave, mon serviteur, parce que je l'aime tellement, mais là, il est vraiment malade, il va mourir. Alors, moi, j'ose même pas venir vers toi, je pense pas que tu peux venir chez moi, parce que moi, je suis un étranger, mais moi, j'ai l'habitude de dire « va » et il va, de dire « apporte-moi ça » et il apporte. Donc, Jésus, si tu dis un mot, mon serviteur, il sera guéri. Puis Jésus, il est impressionné, il dit « jamais j'ai vu quelqu'un qui ose et qui a une telle foi en Israël. » Et Jésus, il est d'accord d'entrer quelque part dans cette démarche. Il se dit, ok, il dit un mot, un mot. Et ce serviteur, il est guéri. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Tous les malades, ce jour-là. Ça ne veut pas dire qu'il l'a toujours fait, mais tous les malades, ce jour-là. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il nous a déchargés de nos maladies. Ou dans certaines traductions, il a porté nos maladies. Alors, on voit Jésus, et plein de fois dans les évangiles que Jésus est guéri. En fait, Jésus guérit plusieurs fois par jour. Ce n'est pas juste une fois comme ça en passant. C'est que des fois, ça peut être 3, 4, 5. Des fois, il va vers la personne. Des fois, c'est la personne qui vient. Des fois, il a une demande. Parfois, il a mis un peu de temps avec Lazare. Il était malade. Et puis, ben, il est arrivé 3 jours plus tard. Puis ses sœurs, elles n'étaient vraiment pas très, très, très contentes. Elle dit, mais maintenant, c'est arrivé un peu tard. Hein. Ben, il est mort. Mais Jésus, il savait pourquoi. Il savait que ce n'était pas trop tard. Mais il savait qu'il ne voulait pas apporter une guérison. Il voulait lui apporter la résurrection. Il voulait enseigner. Parce que souvent, Jésus, quand il guérit, il en profite aussi pour enseigner, pour montrer qui il est et à quel point il a la compassion pour les gens. Ça me touche tellement de se voir que finalement, ça a l'air simple, mais en fait, c'est tellement son cœur de père, son cœur de plein d'amour et de compassion pour ces gens qui souffrent, qui s'expriment aussi à travers cette guérison. Donc on voit qu'aucune maladie, finalement, ne résiste à Jésus. Et qu'aucun malade pour lequel il a prié n'a pas été guéri. Quand on voit les disciples, que Jésus, plus tard, il les envoie, ben, à un moment donné, il y a un père qui vient, « Eh oh, tes disciples, là, ils n'ont pas réussi à chasser les démons dans mon enfant. » Et puis là, ben, Jésus, c'est lui qui prend le relais. Mais lui, Jésus, jamais on voit dans l'évangile qu'il est impuissant face à la maladie. C'est le contraire. Il est tout puissant. Alors bien sûr, c'est Dieu. Bien sûr, il est la résurrection et la vie. Et nous, on n'est pas Jésus. Nous, on est ses disciples. Alors on peut aussi apprendre comme lui à prier. Mais on doit aussi s'attendre à ce que c'est toujours lui qui reste le maître de nos vies, des destins et du résultat de nos prières. Alors c'est vrai, comment est-ce que Jésus est guéri ? Ben d'abord, je crois qu'il agit avec compassion, avec humilité. Et puis d'un côté, c'est tellement simple. Une parole, un geste, un regard. C'est rapide. Il agit avec autorité, avec foi, avec amour. Et quelque part, à chaque fois aussi, il le dit, hein, il manifeste le royaume de Dieu. Il dit, mais quand vous prierez pour les malades, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il tient compte de la demande de la personne. S'il demande, ben, je suis aveugle, il ne prie pas pour son genou hein, ou son pied. Ben non, il prie pour ses yeux. Si la personne elle a la lèpre, il lui dit pas non, je crois que d'abord tu as besoin de régler ça avec tes parents. Non, il lui donne la guérison qu'il attend. Parfois, il se laisse aussi déranger. Une fois, on vient l'appeler, s'il te plaît, guéris. En même temps, il y a une femme qui touche son habit. Puis il y avait une foule tout autour qui dit, mais qui c'est qui m'a touché ? Les disciples, à moitié en rigolant, ils disent, non mais tu plaisantes là, tout le monde te touche, comment tu peux dire qui c'est qui m'a touché ? Puis là, cette femme, elle se tourne, elle dit, c'est moi. Et elle a reçu sa guérison. Mais Jésus ne voulait pas la laisser passer. Comme ça, incognito, il lui dit, mais oui, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, même des fois, quand on pourrait aller vers Jésus un petit peu en tremblant, qu'on aimerait presque qu'il ne nous voit pas, Jésus nous voit toujours. Et il se laisse déranger. Il n'est jamais impuissant, au contraire, il est tout puissant. Il ne refuse pas une guérison. Par contre, aux pharisiens qui demandaient un signe pour prouver que lui, il est le Messie, là, il a refusé. Les motivations étaient différentes. Mais à chaque fois que c'était un vrai malade, j'ai envie de dire, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une maladie, il a accordé une guérison. Et puis, il reste à l'écoute de la volonté de son Père. Il dit, mais je ne fais rien sans voir d'abord ce que le Père fait. Mais concrètement, je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent ? Et puis, si on lit un peu plus systématiquement tous les récits ou beaucoup de récits des guérisons, on voit que souvent, pas toujours, mais souvent, ils touchent la personne. Ça peut être un endroit, ça peut être l'endroit qui est malade. Et il utilise ses mains pour toucher, pour avoir un contact. Souvent aussi, il les regarde, il les écoute, il leur parle, mais pas toujours non plus. Il donne une parole de foi et parfois aussi, il peut faire des demandes. Donc voilà, il y a un petit peu différents éléments qui reviennent souvent, mais que des fois, il utilise l'un ou deux ou trois, ou des fois un, des fois trois, des fois quatre. Et ça dépend selon, j'imagine, la personne qui est devant lui, selon l'esprit qui lui montre aussi. Et Jésus, plus tard, ben, il a aussi envoyé ses disciples. D'abord, il a envoyé les 12 en mission. Et puis voilà, j'ai pris un petit bout des versets. Il dit: en chemin, proclamez, dites, le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça a l'air d'être énorme pour nous, franchement, si je vous disais, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va faire tout ça. Par où on commence? Mais en même temps, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils n'avaient pas, je ne sais pas moi, toute une école de formation. Et puis, c'est plutôt que, voilà, il leur donne l'autorité, il leur dit: maintenant, c'est à vous, vous m'avez vu faire, eh bien, allez-y. Et un peu plus loin, c'est aussi là dans Luc 10, il envoie même 72 autres personnes. Donc, c'est un peu des anonymes, les disciples, le groupe élargi. Il les envoyait par deux dans les villes, à tous les endroits où lui-même devait se rendre. Et quand vous entrez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Et un peu plus loin, mais quand vous entrerez dans une ville et qu'on ne vous recevra pas. Jésus est conscient que parfois, ben non, parfois on ne va pas les recevoir. Parfois, peut-être on va proposer la guérison ou une prière à quelqu'un, puis il va dire non, et ça c'est OK. Et parfois on va prier, et puis ben, il n'y aura pas quelque chose qui va se passer tout de suite, on ne verra pas une guérison. Et puis ça fait aussi partie du processus, ça fait aussi partie de ce qu'on voit et de la réalité. Dimanche prochain, ça sera le thème, la prédication de Francesco, ça sera justement la non-guérison. Donc je ne vais pas aller un peu plus loin sur aujourd'hui, puisque ça sera son thème la semaine prochaine, mais évidemment c'est aussi une réalité dans nos vies, que parfois on vit avec aussi, pendant tout un temps, peut-être jusqu'à la fin de nos vies, avec certaines maladies. Jésus appelle ses disciples. Alors c'est vrai qu'après, ben, après sa mort, après sa résurrection, juste avant l'ascension, avant de monter au ciel, il a dit dans Marc: « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront les serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Donc on voit que juste avant de partir, juste avant de s'élever au ciel, c'est aussi ce qui nous donne, finalement à nous tous, c'est ce qui nous appelle aussi à vivre, de pouvoir prier pour les malades, de pouvoir aussi prendre autorité en son nom, chasser les démons. Alors c'est vrai que cette thématique, ça fait vraiment longtemps, avant le Covid, hein. Je regarde Eric parce que voilà, à Baraka, ben, ça fait depuis plus de 2 ans qu'on parle et qu'on partage cette thématique autour de la prière de guérison. Alors au début, ben, on a prié les uns pour les autres au sein de Baraka. Puis on a vu que Dieu il agissait, puis que des fois voilà, il y a des améliorations, qu'il y avait peut-être aussi quelque chose qui se passait dans nos corps. Puis on s'est dit, mais c'est génial, on a vraiment envie de partager ça plus loin, mais comment ? Alors après, on s'est dit, ben on va aller à l'étape d'après, on va inviter le conseil. Puis on a fait 2 ou 3 fois avec le conseil. Puis on a prié les gens de Baraka, du groupe de la relation d'aide, et les gens du conseil. Puis là aussi, on a vraiment vu qu'il y avait des choses qui se passaient. Alors pas forcément des grandes guérisons, mais on sentait que dans nos corps, il y a aussi des choses passées. Certains oui, certains non. Puis on s'est dit, mais on sent vraiment que c'est quelque chose que Dieu, il aimerait vraiment donner à toute la communauté. Et puis on était en train de réfléchir à ça, on avait fait un brainstorming aussi avec Sébastien Noir, il nous avait mis, on avait chacun mis plein de post-it, et le Covid est arrivé. Et cette longue période où on ne devait pas se toucher, et pas trop se voir, on n'avait plus le droit de se voir, donc il y a eu une grande pause. Mais c'est vrai que dernièrement, ces derniers mois, on s'est dit, mais je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu avait envie qu'on vive ensemble, et puis que c'est important de pouvoir aussi reprendre. Donc, on s'est dit, on va peut-être pas commencer par chacun ces petits groupes de cellules de maison ou par des petits bouts ici pour un petit groupe qui est plus intéressé à cette thématique. On s'est dit, on va commencer avec toute l'Église. Et c'est pour ça aussi qu'on apporte cette série de prédications. Et on aimerait pouvoir ensemble faire des petits pas de mise en pratique. Et puis, voilà, certainement, vous l'avez déjà prié pour des malades, pour vous. Et puis, on aimerait pouvoir aussi le vivre en Église parce que c'est vrai que c'est un don qui est donné pour l'Église et pour plus loin. Alors, faire des petits pas, comment commencer ? Je ne sais pas, quelle est votre première réaction si je vous dis que voilà, on va prier les uns pour les autres pour la prière de guérison ? Je vous écoute. Les 3 réactions à chaud ? Hein ? C'est génial, ouais, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? J'imagine. Je ne suis pas à la hauteur. Non, surtout pas. Non, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon truc, j'ai entendu. Mais je crois que des fois, il faut aussi dire, moi aussi, parfois, ça fait aussi peur. Tu te dis, ah mince, et qu'est-ce qui va se passer? si ça se passe pas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir dans nos têtes. Non, mais moi, non, je crois pas que Dieu m'appelle à ça. Enfin, on peut trouver plein d'excuses et puis avoir des freins. Et je pense que c'est important de pouvoir prendre quelques minutes dans votre tête et dire, tiens, est-ce que moi, dans mon cœur, j'ai les freins? Est-ce qu'il y a des choses que je sens une certaine résistance et que je dis, oui, Seigneur, c'est vrai que tu nous appelles, mais peut-être pas moi, ou pas tout de suite, ou peut-être dans quelques mois. Mais si quelqu'un veut prier pour moi, je veux bien. Mais moi, prier pour les autres, pas encore. Peut-être que je ne suis pas assez mûre spirituellement. Je suis encore jeune dans la foi. Enfin, voilà, nos freins. Mais j'ai écouté une sorte de prédication où deux pasteurs qui lancent des défis 21 jours pour vivre la prière de guérison. Puis ils disaient un truc tellement basique et tellement vrai, si on ne prie pas, ben, il n'y a pas de guérison. J'étais là, ah ouais. C'est une telle évidence, puis en même temps, j'étais là, eh ben, évidemment. Mais des fois, c'est comme si ça ne faisait pas de tilt dans notre tête. Quoi. Je ne sais pas, non, on ne va pas le faire, mais finalement, si on ne le fait pas, il y a combien de chances et de probabilités qu'il n'y ait pas de guérison? Ben, c'est 100%, hein. Il n'y aura pas de guérison, c'est sûr et certain. Donc peut-être la première étape que Jésus nous demande, ben, c'est déjà de pratiquer. Et puis de pratiquer. Et encore de pratiquer. Ça, c'est le premier petit pas, c'est oser dépasser la peur et puis aller avec humilité. C'est comme quand on apprend à tout. Quand on apprend à marcher, quand on apprend à faire du vélo, quand on apprend à jouer d'un instrument. Au début, on se trompe et puis on ne fait pas tout juste, mais on peut y aller. Et je crois que pour moi, le premier miracle aujourd'hui, ce serait de voir toute l'Église, ou la majorité, ou ceux qui veulent, en tout cas, de toute façon, ben, se lever pour prier les uns pour les autres. Et je pense qu'après, ben, on va voir. On se réjouit de voir qu'il y a des choses qui peuvent changer et que Dieu, il veut toucher aussi les corps, il veut toucher nos êtres, il veut toucher nos vies. Mais je crois que la première étape, c'est de se mettre en marche. Et puis, on peut le remercier déjà pour ce qui va se passer. Alors, peut-être, parfois, on prie, on peut prier courtement. Puis, s'il n'y a rien qui se passe, eh ben, nous, on n'est pas Jésus. Alors, on recommence. N'hésitez pas à prier une fois, deux fois, même trois fois pour la personne. Et puis laissez-vous inspirer de pouvoir simplement dire « Seigneur, je bénis cette personne ». Et puis si elle nous donne un thème, un sujet, eh ben, prie pour elle. Puis si peut-être il y a une petite modification, quelque chose qui se passe, hein, vous sentez peut-être moins de douleur, si vous sentez un réchauffement dans le corps ou quelque chose de différent, ou vous lui demandez « Est-ce que tu peux faire un mouvement qu'avant tu n'arrivais pas à faire ?» Et si là il y a quelque chose qui bouge, ça veut dire que le Saint-Esprit il est déjà à l'œuvre. Alors n'hésitez pas à continuer. Puis s'il n'y a rien qui se passe, ben, ce n'est pas grave. Déjà vous avez fait un pas d'obéissance et vous avez commencé.